kiosque international. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le 11e numéro de Kiosque International, le club des correspondants étrangers à Paris, correspondants qui scrutent la France. Une émission que vous pouvez aussi écouter sur notre site www.rfi.fr en direct ou quand vous voulez. Aujourd'hui, nos invités sont Emmanuelle Crène, journaliste australienne, mais pas seulement. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors pour qui vous travaillez-vous ?
Alors je travaille pour la chaîne australienne qui s'appelle SBS, qui est une chaîne multiculturelle, une chaîne d'État, et qui est spécialisée aussi dans l'interculturel pour un meilleur dialogue entre les cultures.
Et on peut dire que vous avez aussi créé une entreprise, tout de suite ?
Également, c'est ça, tout à fait, spécialisée donc dans l'expatriation et l'interculturel aussi. Et j'ai une formation d'anthropologue.
Donc une formation complète. Notre second invité s'appelle Komnen Besirovic, il est journaliste et serbe. Bonjour Komnen.
Oui, bonjour.
Alors pour qui travaillez-vous ? Pour qui avez-vous travaillé aussi ?
Oui, j'ai travaillé pour nombre de journaux yougoslaves, serbo-monténégrins ensuite, pour divers sites. Mais je suis plutôt spécialisé dans l'histoire de mon pays, dans la religion, dans la littérature.
Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, d'ailleurs.
Je suis l'auteur de plusieurs livres, notamment une trilogie sur le Kosovo, où je traite à la fois le Kosovo du point de vue politique, du point de vue civilisationnel, culturel, ce qui est rare.
Kiosque international.
Mesdames et messieurs, notre autonomie diplomatique et militaire n'est pas négociable. La France est toujours solidaire de ses alliés, mais elle n'est sous les ordres de personne. Quand nous projetons nos forces en Afghanistan, ça n'est pas pour nous aligner sur d'autres puissances, c'est parce que nous croyons que le respect international et la lutte contre le terrorisme exigent notre intervention. Vive la Légion, vive l'armée de terre, vive la France.
Alors, premier sujet sur lequel nous revenons, la France dans l'OTAN, à l'occasion du sommet de Strasbourg. Vous venez d'entendre François Fillon, le Premier ministre, qui parlait lundi devant des militaires qui vont partir d'ailleurs en Afghanistan. Alors, je précise que le président Sarkozy a dit mercredi que la France n'allait pas participer au groupe des plans nucléaires, qui est un des comités de l'OTAN. Donc, la France va participer à 39 des 40 comités de l'OTAN, mais pas le comité nucléaire. Alors, une réaction d'abord, Komnen Besirovic.
Monsieur le Premier ministre vient d'affirmer que la France est en Afghanistan sans étant sous l'ordre de quiconque. Or, la France ne serait pas en Afghanistan aujourd'hui si elle n'était pas sous les ordres des États-Unis. Comme elle ne serait jamais partie dans la guerre contre la Serbie si elle n'était pas entraînée par ses solidarités atlantiste et européiste.
Vous croyez que même si la France revendique son indépendance, elle est quand même entraînée par les États-Unis ?
Parce qu'on ne voit pas pourquoi. Pourquoi le moment est mal choisi aujourd'hui que la France réintègre l'OTAN entièrement, parce qu'on ne voit pas à quoi sert l'OTAN. Il n'y a plus.
Effectivement, depuis la fin de la guerre froide, la question se pose.
Depuis la fin de la guerre froide, on ne sait pas pourquoi sert l'OTAN. L'OTAN a montré de quel bois elle s'échauffe dans les Balkans. Il y a 10 ans, aujourd'hui, tombe. Ben, on ne peut pas s'attendre de la part d'un Serbe à parler élogieusement de l'OTAN, étant donné ce qu'il a fait l'alliance dans les Balkans.
Alors, rappelons aussi l'intervention effectivement de 1999.
Oui, il y a 10 ans, l'OTAN en manque d'ennemis parce qu'il n'y avait plus l'Union soviétique. L'OTAN s'est mêlée de guerres, de conflits interethniques, plusieurs fois séculaires. Du côté des Albanais, du côté des musulmans bosniaques.
Alors Emmanuel Crène, quelle est votre vision de à la fois australienne, américaine et française ?
Oui,
vous avez les trois nationalités.
Tout à fait. Peut-être un point de vue australien, que la France fasse partie de l'OTAN est peut-être plutôt une bonne chose. La présence française, la présence militaire française a été souvent critiquée dans le Pacifique, suite aux événements dans les années 80 en Nouvelle-Calédonie, et bien sûr avec la reprise des essais nucléaires nucléaire en Polynésie française.
En 95, je crois.
Voilà, 95-96, et on a souvent entendu parler du rayonnement de la France, ce qui a beaucoup agacé l'Australie. Donc, qu'il y ait une présence française plus importante en Afghanistan, c'est plutôt une bonne chose. L'Australie est un peu réticente aujourd'hui à envoyer plus de troupes en Afghanistan. C'est un effort qui lui a été demandé par les États-Unis aussi. Donc, c'est plutôt une position positive en ce qui concerne... l'Australie.
Alors, Komnen Besirovic, donc vous considérez-vous que la France, en intégrant le commandement intégré, a fait une erreur ?
Absolument. Parce que la France était au pinacle dans les années 60. La France est sortie de l'OTAN grâce à l'arme nucléaire qu'elle a acquise sous le général de Gaulle. Mon vénérable ami, Pierre-Marie Gallois, le général Gallois, pourrait vous en dire quelque chose. C'est lui le concepteur de la force de frappe française. Et donc la France a pu agir sur le plan international en toute indépendance. Ce qu'elle ne fait pas maintenant, je viens de vous le dire, elle n'aurait jamais fait la guerre à la Serbie, son allié traditionnel pendant les deux guerres mondiales, si elle n'était pas entraînée, si elle n'était pas membre de l'OTAN et de...
Mais ça, c'était avant le ralliement de la France au commandement intégré, cette...
Mais elle était tout de même, ouais. Elle était
de plus en plus,
elle
effectivement...
Elle a participé avec 10% de son aviation, donc 10% de son aviation, dans une entreprise qui était orchestrée par les États-Unis. La France n'a pas besoin de cette maudite organisation. On ne voit pas à quoi ça sert. Et le moment est mal choisi parce que les États-Unis sont en débandade en Irak. Donc ils sont... Il y a la débâcle américaine sur le plan intérieur, avec la crise financière, avec l'écroulement de finances mondiales, et puis sur le plan extérieur.
Donc vous considérez-vous que Nicolas Sarkozy a fait un cadeau aux États-Unis en se ralliant définitivement?
Parce que voyez-vous, Sarkozy s'était rallié à la politique des Bush, qui était une politique guerrière. Maintenant, il s'est rallié à la politique de Obama, qui est tout de même une politique plus pacifique. Permettez-moi encore une chose. Vous avez vu l'été dernier, avec les événements des Caucases, l'OTAN a gesticulé, a envoyé le navire dans la mer Noire. L'OTAN a accusé la Russie d'avoir agressé la Géorgie, or il n'était rien. L'OTAN, c'est un truc qui sert à la conquête du monde, surtout dans les années 90.
Alors justement, Emmanuel Krenn, la conquête du monde, vous vous intéressez particulièrement en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel aussi, au monde tel qu'il est, avec ses différentes cultures, etc. Il n'y a pas un choc de culture avec l'OTAN par rapport au reste du monde, et on repose la question, à quoi sert l'OTAN aujourd'hui après la guerre froide? Rappelons que c'était une organisation qui luttait contre le bloc de l'Est et contre l'URSS.
Et c'était positif. Alors, à cette époque, je crois.
Je tiens à vous signaler que c'est vrai que l'Australie a une position un peu particulière. On est assez isolé, hein, on est un peu sous le parapluie américain et britannique, hein, chose à laquelle on tient. On n'a pas les mêmes problèmes qu'on peut trouver en Europe, mais l'Australie a fait partie de toutes les guerres. Elle s'est toujours engagée aux côtés des Américains, dans toutes circonstances, que ce soit la guerre de Corée, du Vietnam, etc. Et il y a une vraie solidarité dans le monde anglo-saxon, et on ne peut qu'être finalement content de ce rapprochement français qui était inexistant depuis déjà pas mal d'années.
Est-ce que ce retour de la France dans le commandement intégré a suscité des commentaires en Australie ?
Oui, et des commentaires plutôt, encore une fois, positifs. Souvenez-vous que pour nous, la position française n'était pas forcément très bonne, hein, dans le Pacifique, hein, vis-à-vis de Nouvelle-Zélande, vis-à-vis des pays d'Océanie. Donc non, c'est plutôt une bonne chose. Avec l'élection de Monsieur Sarkozy, c'était ce rapprochement-là qu'on souhaitait entre le monde anglophone et le monde francophone. Et simplement une petite chose pour terminer là-dessus. Il faut savoir que de nombreux soldats, on va célébrer prochainement Anzac Day, qui est le jour qui commémore toutes les batailles dans lesquelles les Australiens ont participé, qui sont morts en France pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale.
Comme quoi les avis sont tranchés, hein.
Les deux guerres mondiales, nous étions du même côté.
Oui. Bon, bah, tout va bien.
Donc, voilà, nous étions des alliés.
Et c'est l'OTAN d'aujourd'hui qui pose problème et qui pose des questions à Komnen Besirovic.
Surtout.
Souhaitez réagir aux propos de nos invités? kiosque.international@rfi.fr.
kiosque international.
C'est dans sa cellule de la prison de Fresnes que Colonna a pris connaissance de la sentence. Yvan Colonna, reconnu coupable du meurtre d'un homme, plus que ça, de l'assassinat d'un symbole, Claude Erignac, préfet de Corse.
Le seul martyr, le seul héros de ce procès, c'est Claude Erignac. Yvan Colonna, par son départ, par sa fuite, a montré sa lâcheté. La décision est sévère, on n'est pas là pour la commenter, on est là pour l'entendre. Et je pense qu'Yvan Colonna l'entendra également. Et je pense même, peut-être, que par son départ, c'était une sorte d'aveu de ce qu'il voulait entendre aujourd'hui.
Que l'on arrive à condamner un homme en son absence, à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté, dans de telles conditions, sur la base d'un dossier d'instruction aussi mal instruit, me paraît effectivement assez alarmant et préoccupant pour la vie démocratique de ce pays.
Le gros du cortège s'est dissipé, mais quelques incidents émaillent la fin du rassemblement. Des manifestants jettent des marrons de terre, des poubelles sont incendiées, les chaises d'un bar ont été lancées contre les policiers. Pour clôturer l'après-midi, Edmond Siméon, figure emblématique du nationalisme corse, avait pourtant appelé au calme, tout en fustigeant d'un ton très vif la justice française. Yvan Colonna n'est pas un lâche, les lâches sont du côté de Nicolas Sarkozy.
Salut en France !
Et c'est la suite de Kiosque International. C'était à la fin de la semaine dernière, le verdict dans le procès en appel d'Yvan Colonna et des manifestations ce week-end en Corse. Vous avez entendu successivement Franck Alexandre, notre reporter, l'un des avocats des parties civiles, maître Benoît Chabert, l'avocat, un des avocats d'Yvan Colonna, Patrick Maisonneuve, et Marie-Françoise Stefanini, notre consoeur, à propos de ces manifestations. Alors, la Corse est le second sujet de ce numéro 11 de Kiosque International, en compagnie toujours d'Emmanuel Crane et de Comen Besirovic. Un commentaire, Comen Besirovic.
Oui. Moi, je voudrais simplement commenter cette question de la Corse dans le contexte international. Moi, j'approuve complètement que la Corse continue de faire partie de la France. Contrairement à ce que la France officielle, quand je parlais tout à l'heure de la France, je parlais de la France de Chirac et de Jospin, en ce qui concerne la guerre des Balkans. Mais alors là, ce qui est étonnant de la part de la France officielle, c'est qu'elle a tout fait pour détacher, pour arracher le Kosovo à la Serbie, le Kosovo qui faisait partie de la Serbie depuis 1000 ans, faisait partie de son territoire, de son histoire et de sa mémoire.
C'est vrai que la Corse est
mais alors la Corse
est française depuis longtemps.
Et la France a tout fait pour que la Serbie perde le Kosovo. Alors que la Corse fait partie de la France depuis 240 ans, c'est-à-dire depuis 1769, le traité de Versailles entre Gênes et la France. Alors qu'avant elle était complètement en dehors de la France, c'était des possessions génoises, et puis au début du XIIe, XIIIe siècle, c'était des possessions pisanes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que personne n'a jamais s'est mêlé de la question de Corse, en ce qui concerne la légitimité de la France sur la Corse, alors qu'on s'est mêlé, et la France la première, en ce qui concerne la question
du Kosovo. On ne va pas faire un débat sur le Kosovo, mais le contexte était bien différent quand même.
Absolument pas.
Enfin, bon, on en reparlera peut-être. Emmanuel Crane, la Corse. Je précise que je rappelle qu'Yvan Colonna a été condamné en appel à la réclusion criminelle avec une période de sûreté de 22 ans et il a demandé un pourvoi en cassation.
Alors la Corse reste un peu un sujet un peu obscur pour l'Australie. La Corse est très loin. Pour nous, la Corse fait partie de la France. Par contre, si je peux faire un rapprochement encore une fois avec le Pacifique, le territoire francophone le plus proche de l'Australie, c'est quand même la Nouvelle-Calédonie. L'Australie s'est positionnée très fortement dans les années 80 contre une présence française, un territoire qui là appartient à la France depuis 1853. Donc c'est encore plus récent que la Corse. Et maintenant, il y a un changement de politique depuis toute l'affaire Al-Qaïda, etc., où l'Australie considère la présence française plutôt bénéfique dans la région du Pacifique et que l'Australie ne veut plus être vraiment le shérif de la région comme lui avait assigné George Bush. Et une région qui devient aussi problématique avec les îles Salomon, le Vanuatu, etc. Donc la présence française aujourd'hui, les îles françaises dans le Pacifique ne posent pas vraiment de problème. La Corse reste là très 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 loin.
Emmanuel Crène, je répète que vous intéressez aux relations interculturelles, aux cultures du monde, c'est quand même intéressant avec la Corse. Une culture qui essaie d'exister encore davantage au sein d'un pays, la France.
Oui, on pourrait dire que les Corses sont autochtones. Comme nous, on parle des affaires aborigènes en Australie, avec une revendication des terres. Oui, que la France, si vous voulez, la France pour l'Australie qui a tellement promu le côté multiculturel, la France n'a pas eu cette politique-là depuis très peu de temps finalement. Donc oui, que les Corses aient leur vraie place, oui, mais bon, la France a eu une autre histoire et une histoire très centralisée, donc avec finalement peu de revendications ou des revendications qui ont été un peu étouffées dans les régions, dans les différentes régions françaises.
Oui, c'est ça qui frappe, comme Nen Bassirouitch, c'est les relations toujours tendues entre Paris et la Corse.
Et n'oublions pas que la Corse a donné le plus célèbre des Français, Napoléon,
et qui est né. Vous parliez de Tino Rossi.
Oui, oui. Et qui est né, et qui, alors les deux gloires, Corse et Napoléon, qui est né la même année où la Corse est passée sous la domination française par les accords de Versailles entre Gênes et France, c'est-à-dire en 1769.
Mais sur le procès en tant que tel, il vous a...
Mais je crois que les Corses ont suffisamment de droits, d'autonomie au sein de la France, au sein d'un grand pays, et que la France fait tout son possible, je crois, pour satisfaire les revendications en Corse, et que beaucoup de Corses, que les Corses ont leur place au sein des institutions françaises, et que je crois que c'est heureux, et qu'il ne faut pas encourager les séparatistes. Comme on a fait justement au Kosovo. Mais vous voyez, je parle contrairement à beaucoup d'intellos français, des oracles.
Mais il n'empêche, Emmanuel Crène, en France, on ne peut pas parler de la Corse tranquillement. Il y a toujours des passions sous-jacentes.
Ça crée des passions. C'est vrai que ça soulève un vrai problème. Comment pouvoir conserver son identité locale tout en faisant partie d'une nation plus large? Je pense que peut-être la solution peut être l'Europe. On parle souvent des départements qui appartiennent, que ce soit le Groenland, qui appartient au Danemark, que ce soit les autres îles qu'on trouve un peu partout dans le monde, et leur donner peut-être une place au sein de cette Commission européenne pour pouvoir revendiquer son identité tout en restant partie d'une nation.
Merci Emmanuel Crène. Je rappelle que vous êtes aussi donc dirigeante d'une entreprise.
Oui,
on peut donner son nom. Hein.
Emmanuel Crène Consulting, ECC, oui. Voilà, que j'ai débuté il y a quelques années.
Et qui sert justement à...
Dans le dialogue des cultures, l'interculturel, la compréhension de l'autre et comment arriver à travailler ensemble en évitant les conflits.
Tout ce qu'on peut souhaiter.
Comme Nen Bassirouitch, vous êtes donc l'auteur d'un certain nombre de livres, on peut en rappeler quelques-uns.
Moi, je suis l'auteur d'un livre sur André Malraux, que j'ai connu. J'ai interrogé toute une série d'écrivains, toute une pléiade d'écrivains quand j'étais jeune journaliste dans les années 60. Et Malraux, Aragon, Mauriac, mais surtout, c'était Malraux qui me fascinait le plus.
Et quelques livres sur le Kosovo, donc.
J'ai écrit sur le Kosovo dans l'âme et le Kosovo dès l'absolu, et je vais publier jusqu'à la fin du mois le Kosovo sur le calvaire.
Merci, Komnen Bassirouitch. Merci, Emmanuel Crène.
Merci à vous, Edouard Lundic.
Et c'est la fin de cette 11e édition de Kiosque International avec toute l'équipe. Véronique Fournier, évidemment, réalisation Vanessa Ravensky, bien sûr, technique Pablo, bien sûr également. Et un rappel de notre adresse électronique.
kiosque.international@rfi.fr.
Et dans un instant, un nouveau journal sur RFI.